Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a un petit métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se pousser. Les gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence.
J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Grégores. Chaque semaine, sur les Côtes d'Igarigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégores, une parole anarchiste communiste. Ça fait un mois qu'on vous parle de la Belgique, entre autres parce qu'il se passe des choses intéressantes et importantes. Et puis, l'un d'entre nous y était allé, sauf qu'il avait oublié le magnétophone ce jour-là. Ce qui fait qu'on s'est dit, il faut qu'on ait un copain belge au téléphone. Et puis, on en a un, c'est Antoine. Antoine, tu nous entends ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors voilà, je crois que ça serait peut-être bien que tu nous dises un petit peu le point de départ. Ça a été le fameux gouvernement Michel, je crois, qui au mois d'octobre a pris des mesures, enfin voulait prendre des mesures concernant l'austérité. Est-ce que tu peux, voilà.
Ouais, très clairement, mais les mesures, il veut toujours les prendre, puisque c'est dans l'accord de gouvernement. Donc le gouvernement Michel, c'est un gouvernement d'ultra-droite, composé d'un seul parti francophone, le mouvement réformateur, qui est un parti de droite libérale, et une majorité de partis flamands, dont la NVA, qui est un parti nationaliste, et qui d'un point de vue, en tout cas, de son programme social, est un parti très clairement qui a une vision très proche de l'extrême droite. En fait, on peut dire droite extrême, mais pour certains, c'est l'extrême droite. Et donc, il y a toute une série de mesures qui sont prises, qui sont des mesures austéritaires, et qui clairement ne s'attaquent qu'aux travailleurs, aux allocataires sociaux, aux pensionnés, aux étudiants, en fait.
D'accord. Et alors, justement, je crois que tu détailles un petit peu les mesures qu'il veut prendre, puisque ça va nous rappeler des choses en France.
Alors, les mesures, très clairement, la première, c'est le saut d'index. Donc, en Belgique, on a un mécanisme d'indexation automatique des salaires. Donc, les salaires augmentent avec l'augmentation du prix de la vie. Ça, c'est une mesure phare, mais c'est l'augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans, donc passer de 65 à 67 ans, et des mesures comme la suppression de ce qu'on appelle le crédit temps en Belgique. Donc, les travailleurs ont la possibilité de faire une carrière en percevant une allocation de chômage. Donc, c'est une pause qui est voulue par le travailleur pour des raisons familiales, si un enfant rentre à l'école pour raisons médicales auprès d'un proche de la famille. La suppression drastique d'une série d'accès aux allocations de chômage pour les jeunes qui sortent de l'école. Comme autre mesure, il y a l'obligation pour les travailleurs de créer un compte épargne-temps. Donc ça veut dire que s'ils veulent faire une pause dans leur carrière, ils devront épargner leurs jours de congé et leurs heures supplémentaires, et le gel des salaires. Alors ça, c'est quelques mesures, mais l'accord de gouvernement, il fait 110-120 pages. Et toutes les mesures qui sont prises dedans visent uniquement des attaques sur les droits des travailleurs, en fait.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu maintenant des réactions qu'il y a eu, dès le début, je crois, avec la montée en puissance de ce mouvement social en novembre et décembre?
Oui, la réaction a été très forte directement, puisqu'on a eu une manif nationale le 6 novembre qui a rassemblé plus de 120 000 personnes. Alors, au niveau de la Belgique, c'est énorme.
C'est énorme, oui. C'est multiplié par 6 pour comparer avec la France, quoi. Mm-hmm.
Oui, il y a 11 millions d'habitants en Belgique, hein, c'est ça, un petit peu plus?
Oui, en Belgique, un petit peu moins de 11 millions.
Et il y a quoi? Il y a 7 millions de travailleurs? 6 millions d'actifs?
Un petit peu moins, hein. 5 millions d'actifs. Non, ce qui est intéressant dans la manif, c'est qu'on a vu, il y avait les travailleurs actifs, mais aussi des représentants d'organisations de chômeurs en lutte, des organisations étudiants, des pensionnés. Donc on voyait qu'au niveau des composants de la manif, c'était pas uniquement des militants syndicaux, mais vraiment c'était très représentatif de la population belge, en fait.
D'ailleurs, peut-être pour donner quelques éléments à nos auditeurs qui ne maîtrisent pas forcément les enjeux et les données du monde du travail en Belgique, peut-être qu'il pourrait être intéressant, toi, que tu te présentes, puisque tu es à la FGTB, et puis qu'on explique un peu quand même l'histoire du salariat en Belgique et le fait qu'il y ait énormément de syndiqués et que les syndicats ont une importance très très forte à la fois dans le dialogue social, entre guillemets, mais surtout dans l'organisation du salariat et de la main-d'œuvre en Belgique. Ouais. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, Antoine, s'il te plaît?
Ouais. Donc, moi, c'est Antoine. Donc, je suis permanent pour les jeunes LGTB Charleroi-Sud-Élo. Donc, ça reprend Charleroi, qui est une ville industrielle, mais ça reprend aussi des zones rurales comme Beaumont, Chimay, qui sont près de la frontière française. Et donc, les jeunes LGTB, c'est une centrale interprofessionnelle. Donc on a des étudiants, des apprentis, des jeunes chômeurs, des jeunes en recherche d'emploi, des jeunes dans ce qu'on appelle le stage d'insertion. Ça, c'est quelque chose de spécifique à la Belgique. Et donc voilà, moi, mon boulot, ben, c'est de permettre l'organisation autonome des étudiants au niveau de l'organisation syndicale, principalement.
Et donc on peut dire que sur l'ensemble des actifs en Belgique, population active, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ceux qui sont en âge de travailler, il y aurait, allez, on va pas couper les cheveux en quatre, surtout que moi j'en ai plus beaucoup, mais on va dire deux travailleurs sur trois qui sont syndiqués, 60%, 65%.
On est presque à 70% de toute syndicalisation en Belgique au niveau des actifs. Des actifs, mais aussi de ce qu'on appelle au niveau syndical les travailleurs sans emploi. Donc nous, on ne parle pas de chômeurs, on parle de travailleurs sans emploi. Donc c'est clair qu'on a une force de mobilisation qui est assez importante. Au niveau de la FGTB, on a 1 200 000 affiliés. La CSC, on a presque 2 millions, je pense, et plus en Flandre. Donc c'est clair qu'en Belgique, il y a une tradition de syndicalisation qui est due à plusieurs facteurs. Hein. Donc le premier, c'est l'organisation du système social en Belgique. Donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le pacte social, donc dans lequel le patronat s'engage à négocier avec les syndicats, s'engage à la création de la sécurité sociale en Belgique, donc elle est moulée dans un texte, donc la création de la sécurité sociale de manière massive. Et donc c'est vrai qu'en Belgique, il y a une tradition de concertation entre le patronat et les organisations syndicales. Alors cette tradition de concertation n'empêche pas qu'il y a eu par moment de fortes mobilisations, de forts conflits. On a notamment eu les grèves de 60-61 en Belgique, qui ont été des grèves très dures, donc grèves au finish de 5 semaines. Des affrontements très violents avec la mort de 5 militants syndicaux abattus par la gendarmerie. On a eu en 86 encore de très grosses manifs, et donc il y a quand même, même s'il y a cet aspect de la concertation, aussi un héritage idéologique au niveau de la FGTB qui est directement lié à sa création. Donc quand la FGTB apparaît en 45, c'est la fusion de plusieurs organisations syndicales. Une qui est clairement dans l'héritage socialiste du mouvement ouvrier. Et une autre, ça c'est un peu moins, mais qui en fait une organisation anarcho-communiste qui était principalement présente dans le syndicat du livre, puisqu'en Belgique, au niveau du livre et l'édition, il y avait une très forte tradition anarcho-syndicaliste. Et donc la FGTB, historiquement, dans sa déclaration de principe, a gardé des références très claires au programme anticapitaliste et notamment à l'abolition du salariat.
C'est ça, hein, la FGTB se réfère à la charte de Carignan, hein, qui est le texte fondateur du Parti ouvrier belge. En 1894, pour les historiens des mouvements ouvriers européens, mais ça c'est encore quelque chose qui est très présent dans la culture des militants syndicaux de la FGTB. Oui. Je précise que les trois centrales syndicales françaises se réfèrent, elles, toutes et tous, que ce soit la CFDT, FO ou la CGT, à la charte d'Amiens de 1906, qui était là un compromis entre les syndicalistes révolutionnaires et les syndicalistes entre guillemets réformistes. C'est toujours le texte qui sans normalement régir les centrales syndicales, mais qui a été largement amendé depuis, à la différence de la FGTB, puisque vous n'avez pas peur de faire référence à des notions aussi farfelues, dirais-je, que la lutte des classes et effectivement l'abolition du salariat.
Non, mais je pense que tous les camarades qui écoutent peuvent trouver la déclaration de principe de la FGTB sur Internet, c'est très facile. Les premiers points sont très clairs, hein, donc je disais abolition du salariat, disparition des classes et du salariat, et surtout la collectivisation, plus loin de production.
Alors les autres syndicats, on va faire vite parce qu'elles ne sont pas là et bon, on va plutôt parler avec ceux qu'on a en face. Donc il y a la CSC hein, qui est le syndicat qui se réfère à la doctrine sociale hein, de l'Église catholique. C'est les Verts. Je dis ça parce qu'on parlera tout à l'heure de ce que moi j'ai vu à Bruxelles le 15 décembre. Et puis il y a les Bleus. Ça c'est la CGSLB.
Oui, donc c'est la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique. Donc.
Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que ça, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est quand même assez hallucinant, ce syndicat libéraux. Comment tu pourrais les définir, toi?
Alors, c'est un peu difficile de définir un oxymore comme ça. Parce que,
c'est clair.
La syndicat libéral à la suite, moi ça fait toujours un peu bizarre. Maintenant, la CGSLB, c'est le plus petit syndicat en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique... tous les travailleurs qui s'unissent peuvent créer leur propre syndicat. Ce qu'il y a, c'est que dès qu'on a 50 000 membres, on est reconnu comme étant un partenaire social. Et donc, par exemple, dans les concertations ou discussions qui sont en cours entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, la CGSLB est présente puisqu'elle a 50 000 membres. Donc, elle est reconnue comme un partenaire social.
D'accord. Et est-ce que tu peux, parce que tu nous as dit tout à l'heure, effectivement, tu nous as donné des explications concernant le taux de syndicalisation très fort en Belgique, sauf que, bon, moi j'ai lu aussi qu'il y avait d'autres explications sur le fait que le syndicalisme belge gère, entre autres, l'assurance chômage.
Exactement.
Hein, et puis je crois qu'il gère aussi les mutuelles.
Alors, il ne gère pas les mutuelles.
Non, d'accord.
Mais c'est clair que chaque syndicat... historiquement à sa branche des mutuelles.
D'accord.
Donc l'FGTB est forcément plus proche à travers l'action commune de la mutualité socialiste, la CC est plus proche de la mutualité chrétienne, enfin, on va rentrer dans les détails. Maintenant, l'élément déterminant sur le taux de syndicalisation en Belgique, c'est qu'effectivement, les syndicats sont des caisses de paiement d'allocation de chômage.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'un chômeur peut, s'il veut, s'inscrire à la CAPAC, ça c'est la caisse de l'État, et donc la CAPAC verse l'allocation de chômage, mais ne défend pas le chômeur en cas de décision de l'ONEM. Donc l'ONEM, c'est l'Office National de l'Emploi qui décide d'octroyer ou pas l'allocation de chômage. Les syndicats, eux, aussi sont les caisses de paiement, à la différence que défendent effectivement les travailleurs sans emploi s'il y a un litige avec l'ONEM, s'il y a une décision qui est négative, et les représentent au niveau des revendications. Alors ça, c'est la théorie, bien évidemment. Et donc c'est clair que pour beaucoup de chômeurs, ils voient le syndicat aussi comme une forme d'assurance,
oui.
C'est très clair, hein. Donc la cotisation est réduite par rapport à un travailleur, mais c'est ce qui explique aussi en partie le fait que le taux de syndicalisation en Belgique soit aussi important. Alors, il y a du pour et du contre, très clairement. Il y a beaucoup de critiques qui émanent en disant que les syndicats s'enrichissent à ce niveau-là. Alors très clairement, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'ONEM donc, verse l'argent aux syndicats qui le reverse aux chômeurs. Mais il n'y a pas d'enrichissement de la part des syndicats par rapport à la gestion de ces manies financières, par rapport à l'allocation chômage.
D'accord.
Alors, et à noter aussi que ce taux de syndicalisation a augmenté hein, depuis une dizaine d'années, environ 5% en plus, ce qui est quand même à relever par rapport à chez nous, où il y a une désaffiliation du taux de syndicalisation. Alors justement, c'est important ce que tu dis et ce qu'on a essayé de tracer, c'est-à-dire que dans leur esprit, les syndiqués et les travailleurs belges représentent ou sont amenés à se penser comme les véritables représentants de la société civile belge, en tous les cas de la masse, puisque non seulement ils sont représentatifs, mais en plus ils assurent et ils font tourner une partie de la société belge. Et ce sentiment de représentation et de légitimité, moi il m'est apparu vraiment très très intéressant et très très important lors de ma visite à Bruxelles le 15 décembre, ou dans le sens où l'attitude du gouvernement Michel était vraiment pensé comme un véritable affront. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une volonté de blocage de la part des syndicats, il y avait une possibilité de négocier et de discuter, mais que le gouvernement Michel, lui, voulait vraiment passer en force. Comment tu expliques ce trait du gouvernement Michel-là?
Ce qui se passe, c'est que dans l'organisation politique belge, où donc on a des communautés différentes, des régions différentes, et donc forcément, un francophone, par exemple, en Belgique, ne vote que pour des partis francophones. Il ne peut pas voter pour un parti flamand.
Mmh.
Alors, on a toujours eu, dans les gouvernements fédéraux créés, un équilibre au niveau de la représentation, la représentativité proportionnelle, entre francophones et néerlandophones. Et notamment une présence depuis 25 ans du PS dans le gouvernement fédéral. Alors, même si le PS fait une politique, sociodémocrate et néolibérale, hein, c'est pas une politique de gauche, ça on est très clair, c'est comme en France, le PS fait en sorte que sur des attaques par rapport aux droits des travailleurs, on avançait par petites réformes, par petits coups par-ci, petits coups par-là. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'avec un gouvernement composé uniquement de partis vraiment Dieu s'assume comme étant véritablement de droite. Au lieu d'y aller par petits bouts, ben, ils ont sorti la grosse artillerie directement et ils sont allés avec un accord de gouvernement, un programme de gouvernement qui était directement des ensembles de mesures que le PS aurait mis 20 ans à mettre en place parce qu'il voulait ménager son électorat, très clairement. Alors, ça, effectivement, c'est un affront pour les syndicats parce qu'il y a eu, il y a une tradition en Belgique de concertation et de discussion, ce qui n'empêche pas la capacité de réagir quand c'est nécessaire. Et donc, ça, je pense qu'effectivement, ça a été un électrochoc. Une aussi grosse manif syndicale, il faut monter à 86 pour en avoir une qui rassemble presque autant de personnes. Donc, il y a quand même presque 30 ans.
Alors, peut-être on peut rentrer maintenant dans la description du mouvement lui-même. Peut-être on peut commencer à parler de la tactique, puis après on parlera de la stratégie. Alors, première chose, le Front syndical commun. Le Front commun syndical, plutôt, comme vous le dites exactement. Est-ce que tu peux nous décrire cette alliance, en tous les cas, ce mode de fonctionnement?
Alors, vu les circonstances, je pense que c'était bien clair pour tous les syndicalistes, quelle que soit leur organisation, que c'était important d'agir de manière coordonnée et de s'unir par rapport aux attaques du gouvernement. Donc, très clairement, le plan d'action syndical donc, qui comprenait une manif nationale, 3 jours de grève tournante, donc un jour chaque semaine, puis finir par une grande grève générale nationale, a été accepté par les 3 organisations syndicales, y compris le syndicat libéral. Ça, je pense que c'est important de noter aussi. Même si la CGCLB, un syndicat libéral, elle a quand même pour objectif de défendre un minimum l'intérêt de ses affiliés, les droits de ses affiliés qui sont des travailleurs aussi. Donc ça, la CGCLB est rentrée directement, elle a même eu parfois un discours assez agressif par rapport à son partenaire politique habituel qui est le MR.
Ouais.
Donc ça, je pense que c'est un élément qui est intéressant aussi. Là, sur la stratégie en tant que telle, ben, elle est intéressante parce qu'elle a permis d'avoir régulièrement des journées de grève sans affaiblir trop directement les travailleurs, parce que c'est clair que ce qui a changé aujourd'hui par rapport à il y a 25 ou 30 ans, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour les travailleurs de faire grève.
Oui.
Alors, d'un, à cause de la perte de salaire,
oui.
La vie est beaucoup plus difficile. On a beaucoup de bas salaires, et donc c'est clair qu'à un moment, renoncer à 4 ou 5 jours de salaire sur son mois, c'est quasiment possible.
Oui.
Alors, quand on est en grève, on a une ce qu'on appelle l'indemnité, moi j'aime pas le terme, mais l'indemnité de 30 euros pour remplacer des salaires. Mais c'est clair que pour certains travailleurs, c'est très délicat.
C'est pas assez,
mais... Donc l'idée d'étaler la grève avait l'aspect positif de permettre à tout le monde de se mettre en grève et deuxièmement de maintenir un rapport de force et une pression sur le gouvernement. Alors, il y a 10 ou 15 ans, on a fait des grèves générales un jour. On fait un jour de grève générale, discussion reprenne et le rapport de force disparaît de lui-même. Ici, ce qui est intéressant, c'est dans la dynamique sur du moyen terme, donc une dynamique de lutte sur un mois et demi. Ça, je pense que c'est intéressant de le mettre en place.
D'accord. Oui, c'est ça, ce principe de grève tournante qui permet effectivement à chacun ou à chaque province d'utiliser ses moyens pour paralyser et puis pour prendre conscience de sa force et de monter en puissance petit à petit, quoi.
Alors, une critique qui vient beaucoup en Belgique, de la part de... Parce que c'est clair que tout le monde en Belgique n'est pas du côté de la lutte et des syndicats, et certains applaudissent dès demain les décisions du gouvernement en disant qu'elles sont nécessaires. Une critique qui revient souvent, c'est le blocage d'entrée à des zonings ou le blocage de grandes entreprises ou magasins de chaîne. Alors, ça s'explique aussi par le fait que on a parlé de l'aspect du salaire qui empêchait certains de faire grève, ou en tout cas rendait ça difficile. Une autre raison, c'est que certains travailleurs qui sont de plus en plus en contrat à durée déterminée ou en contrat d'intérimaire, donc c'est des contrats à la semaine et même de plus en plus au jour le jour, savent très bien s'ils sont grève, ils sont virés. Et donc on a toute une partie de travailleurs qui ne savent pas se mettre en grève, et donc le fait d'aller bloquer des entreprises, de bloquer l'entrée à des zonings, c'est pour permettre aussi à ces travailleurs d'être de facto en grève, même s'ils ne déclarent pas auprès de leur entreprise, et d'aller soutenir d'autres piquets, d'avoir ainsi une solidarité entre camarades. Ça, je pense, c'est un élément qui est important à mettre en avant aussi.
Ah, ça, c'est non seulement un élément important, et c'est un élément très, très impressionnant. Alors, évidemment, moi, mon point de vue là-dessus, il est assez partiel, puisque, je te l'ai dit, ma visite de Bruxelles le 15 décembre n'est pas forcément représentative de l'ensemble du mouvement en Belgique, mais on est arrivé, et c'était clair que Bruxelles et sa région, les zonings, donc les centres d'activités commerciaux, les zones commerciales, hein, pour les Français, pour bien qu'ils comprennent, étaient totalement bloqués, et quasiment personne ne bossait dans Bruxelles, quoi.
Mais dans le reste de la Belgique, donc dans les... Que ce soit les 2 grandes villes wallonnes, Liège, Charleroi, en tout cas bassin industriel, et les autres grandes villes comme Namur, tout était bloqué. Hein. Donc ça, ce qui est bien salué aussi, c'est que vraiment la camaraderie entre Les militants de la CSC et de l'FGTB étaient vraiment très agréables. Autre élément intéressant aussi, c'est qu'à Charleroi, donc traditionnellement, chaque organisation syndicale fait son QG dans sa... donc, dans son bâtiment pour organiser les actions grèves de ses militants. Ici à Charleroi, on a fait le choix de la faire, donc d'avoir un QG commun avec la CSC pour bien coordonner la présence des militants, quelle que soit leur couleur syndicale, en fonction de l'endroit où il y a des renforts.
Oui, ça c'est effectivement aussi très important ce que tu dis quand tu parles de camaraderie, quand on vient de l'extérieur également. Alors, il y a un aspect qui est assez impressionnant, c'est que chaque syndiqué porte fièrement les couleurs de son syndicat, avec visiblement une garde-robe qui est très très bien fournie chez vous. Mais que tout ça, sur les piquets de blocage et sur les piquets de grève, ça se mélange et ça se discute, chose impensable chez nous. Quand on voit le sectarisme syndical qu'il peut y avoir, à savoir FO et CGT ne s'adressent fort peu la parole, ou alors uniquement par les têtes, par les chefs, et là en fait tout le monde est mélangé et tout le monde discute. A noter également que quand on vient de l'extérieur et que du coup on n'a pas d'affiliation syndicale, les gens nous accueillent et sont très sympathiques, quoi, et on a vraiment ressenti cette vie. Sur les piquets, cette vie du mouvement qui fait que la grève n'était pas quelque chose de passif, quelque chose d'actif. Et ça, je pense que c'est vraiment une marque de la force du mouvement. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça, ou c'est moi qui venais de ma planète française qui regardait ça avec des yeux un peu naïfs?
Non, sur le terrain, moi j'ai ressenti comme ça. Alors, c'est vrai que parfois, il y a une rivalité historique entre l'LGTB et la CSC. Pour des références idéologiques ou autres, et parfois dans une manière de fonctionner au niveau des concertations et du fait de ne pas lâcher trop vite par rapport au gouvernement patronat. Je pense que vu les circonstances, les deux grandes organisations syndicales sont conscientes des enjeux. Alors, sur d'autres aspects, on peut revenir après là-dessus, elles ne sont pas tout à fait pas assez conscientes ou assez combatives sur certains points. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur les piquets, effectivement, nous, on a ressenti une très forte camaraderie. Par exemple, on a fait, nous, au niveau jeune, on a organisé un ravitaillement des piquets, parce qu'il y a des camarades qui, depuis 3h du matin, étaient sur les piquets, donc on allait ravitailler en café, sandwich et autres. Et on ravitaillait tout le monde, on est toujours très bien accueillis partout, des discussions politiques très intéressantes. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez important, c'est que cette action syndicale de grande envergure, elle a permis aussi de remettre en avant des discussions syndicales entre militants, et surtout entre militants FGTB, CSC, qu'on avait parfois beaucoup plus difficilement avant. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est porteur pour la continuité de la lutte.
Ouais. Oui, alors bon, il y a eu la grève des confiseurs, comme on dit, hein, puisque après, je crois, après votre grande manifestation et votre grève générale du 15 décembre, il ne s'est plus rien passé. Tout au moins, les centrales syndicales avaient décidé d'une trêve jusqu'au 13 janvier. Le 13 janvier est passé, puisqu'on est aujourd'hui le 18. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'état d'esprit d'aujourd'hui et les décisions qui ont été prises au niveau des centrales syndicales?
L'état d'esprit est partagé parce que ici la place est maintenant mise à la concertation, donc ce qu'on appelle en Belgique le groupe des 10. Le groupe des 10, ça reprend les représentants du patronat, donc la FEB qui est l'équivalent du MEDEF en France, les organisations patronales wallonnes et flamandes et les représentants syndicaux. Alors, le gouvernement a lâché du lest notamment sur une possibilité de renégocier des hausses de salaire, parce que dans l'accord du gouvernement il y avait clairement un gel des salaires. Il serait possible de renégocier des hausses salariales, mais de maximum 0,5%, hein, donc c'est-à-dire en fait que dalle, très clairement. Et donc ici, la volonté est sur la discussion au dialogue. Alors, le Front commun syndical avait mis 4 balises pour mettre en place une trêve et revenir à table des négociations. C'était l'abandon du sous-index, la liberté de renégocier les salaires, des investissements massifs dans les services publics, l'instauration d'une tax shift, donc d'une justice fiscale plus importante, et de la création d'emplois durables. Alors, toutes ces balises ne sont pas rencontrées. Les organisations syndicales préfèrent retourner à table de discussion. Maintenant, il faut voir comment la base va réagir, et moi, je pense personnellement qu'elle ne pourra pas satisfaire de ce genre d'avancée, très clairement.
Oui, il y a une base qui pousse et il y a une base qui semble être consciente de l'enjeu, c'est-à-dire que ce qui se passe là dans cet affrontement avec le gouvernement Michel est un moment extrêmement important dans la lutte des classes en Belgique. C'est-à-dire que celui qui cédera perdra beaucoup plus qu'une simple bataille.
Bien sûr, oui. Sur les revendications, par exemple, une hausse salariale de 0,5%, moi, personnellement, en tant que militant syndical, ça ne m'intéresse pas, très clairement. Alors, on a souvent ce sujet qui revient au niveau des organisations syndicales, c'est la défense du pouvoir d'achat. Moi, très clairement, le pouvoir d'achat, ça ne m'intéresse pas parce que c'est une conception qui me semble capitaliste. Moi, je préfère gagner un peu moins, payer plus de contributions pour qu'ils soient investis dans les services publics, les soins de santé, les hôpitaux, les écoles, avoir un confort de vie, que ce soit à travers l'accès à l'enseignement, à travers ma liberté de m'appliquer dans une association de quartier, d'avoir du temps libre, que de gagner 0,5% de salaire en plus. Et donc, le débat aujourd'hui, il est sur la question de l'exploitation des travailleurs, très clairement. Alors, pendant qu'on va, que certains se réjouissent parce qu'on peut arracher quelques miettes, la situation reste la même, c'est qu'au niveau des grandes sociétés belges qui font des bénéfices, l'impôt moyen est à peine de 5%. Donc, par exemple, une société comme Télénet en Belgique fait 4 milliards de bénéfices et paye 0,4% d'impôts. Mmh. Et donc, ici, ce qu'il faut, alors, par exemple, on parle d'une taxe sur la spéculation financière de 1%, ce qu'il faudrait surtout avant, c'est remettre des contributions telles qu'elles le sont, donc c'est à 33-35% sur des sociétés qui font des bénéfices et qui en plus licencient. Donc on a ici il n'y a pas longtemps ArcelorMittal, Caterpillar, Deleuze, des groupes qui sont en bénéfice, mais qui vont licencier des centaines et des milliers de travailleurs. Et donc ici, tout le débat et tout l'enjeu, c'est de sur quoi est-ce qu'on veut revenir comme projet de société. Est-ce qu'on va accepter de rester dans un cadre libéral et sociodémocrate où on va continuer à faire des petites mesurettes et des grèves défensives pour conserver les quelques acquis qui restent de l'héritage du mouvement ouvrier et du mouvement syndical, ou est-ce qu'au contraire on va repartir dans des grèves offensives pour remettre en avant des revendications historiques et progressistes, socialistes, du mouvement ouvrier. Moi je pense notamment à la réduction du temps de travail, c'est quelque chose qu'il faut remettre en avant, très clairement. On a 300 000 chômeurs, enfin 300 emplois en Belgique. Ben, moi, il faut réduire ton travail sans perte de salaire, au contraire, avec une augmentation de salaire et embauche compensatoire.
Oui, parce que là, tu l'as dit, là, et puis on a bien compris dans ta description, l'affrontement de classe, il est limpide. Nous, on connaît Bruxelles et la Belgique comme paradis fiscal, puisqu'il y a plein de gens fortunés, de riches contribuables français qui viennent s'attaler à Bruxelles. À noter d'ailleurs que Bruxelles, en tant que ville qui a une histoire particulière par rapport à la diplomatie, par rapport à son centre de décision européen, est une ville qui concentre à la fois des inégalités, qu'elles soient sociales mais aussi spatiales. Pour ceux qui ont l'occasion de se balader à Bruxelles, vous allez dans le quartier des ambassades ou dans le quartier diplomatique, c'est assez impressionnant, hein, quand même des immenses bâtiments, également des hôtels très chics. Donc on voit vraiment la puissance et la richesse qui est incarnée, et c'est clair que la richesse et la ponction de la richesse qui est confisquée et qui est prise, elle est sur les travailleurs et pas du tout sur les rentiers. Et là-dessus, je crois que les syndiqués et les grévistes avaient un discours qui était extrêmement, extrêmement clair, quoi, que le gouvernement Michel, eh ben, il fait payer la crise, il fait payer le saut de la restructuration aux travailleurs, à ceux qui produisent la richesse, et pas à ceux qui en profitent.
Et pas ceux qui en profitent. Alors ça, c'est un discours qui vient de plus en plus, et c'est quelque chose de très positif. Ce qui revient aussi comme discussion, c'est sur la question de la dette.
Ouais, alors, ouais.
La dette, c'est en fait ce qui coûte au niveau des moyens publics lorsqu'on rembourse la dette. Ce qui coûte le plus, c'est les intérêts. Alors, on a des intérêts qui sont des intérêts énormes par rapport aux montants empruntés, et donc des montants qui en plus ont été prêtés par des groupes financiers, puisque la Banque Centrale Européenne ne peut toujours pas prêter directement aux États. Et donc très clairement, il y a une remise en question de plus en plus forte de la légitimité du remboursement de la dette. Alors, ça c'est un élément qui est intéressant, parce que ça prouve aussi que de plus en plus de travailleurs qui étaient pratiquement centrés sur la vie de leur entreprise et les revendications internes à l'entreprise, ont de plus en plus, au niveau syndical, une vision globale des enjeux et des problématiques.
Alors, quelles pourraient être les perspectives de ce mouvement? Parce qu'il y avait quelque chose qui était aussi présent dans les discussions, c'est-à-dire on sait que la Belgique a effectivement un problème par rapport à sa représentation, et qu'il y a le spectre de la partition qui est souvent agité, mais que le gouvernement Michel est issu lui-même d'une minorité politique à l'intérieur de la représentation politique belge, et que donc il y a ce danger qui est là, peut-être le chantage à la partition d'une part, et puis d'autre part, le fait de dire qu'à cause de ces syndicats et à cause de ces grèves, le pays deviendrait ingouvernable, entre guillemets.
Alors, Le pays, il a été ingouvernable, enfin, manière, façon de parler, pendant 500 jours. Je pense que ça n'a pas posé véritablement de problème au quotidien des travailleurs. Maintenant, la grande question qui revient beaucoup, c'est si on fait tomber le gouvernement, c'est qu'est-ce qu'on aura après.
Oui, oui. Alors,
très clairement, si c'est pour avoir un retour du PS tel qu'il a fonctionné, alors il faut savoir que le PS était au gouvernement fédéral depuis plus de 20 ans, que toute une série de mesures antisociales comme celle ici qui est d'application depuis le 1er janvier 2015, à savoir la limitation dans le temps, donc les allocations d'insertion, donc c'est les allocations de chômage pour les jeunes sortant des études, mais aussi pour certains travailleurs et surtout travailleuses à temps partiel, sont supprimées, donc limitées dans le temps. Cette mesure antisociale qui touche près de 30 000 personnes en Belgique, elle a été prise par le PS.
Oui,
ouais. Alors, effectivement, demain, savoir un retour aux affaires du PS et se dire que c'est une victoire, moi, je pense que ça va être plutôt une défaite. Ce qui est important, c'est, et on va revenir sur la notion de la grève défensive offensive, ce qui est important, c'est de se dire, quel que soit le gouvernement qu'on va voir après, s'ils veulent prendre des mesures antisociales et austéritaires, ben, il faudra aller au charbon et continuer à se défendre et lutter, mais il faut aussi, surtout, mettre le rapport de force en place pour avoir des grèves offensives qui débouchent sur des victoires syndicales.
Ouais. Alors, on va peut-être faire une pause musicale, là, puis après, on reprend, puisque je crois qu'il y a, il faut aborder d'autres problèmes, comme les collectifs contre l'austérité en Belgique, il y en a qui se naissent, là, et des aspects peut-être intéressants, voilà.
À tout de suite, Antoine.
À tout de suite, Antoine.
Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste un ouvrier. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste de notre côté. Rappelle-toi de notre travail, pendant tant et tant d'années, à nous crever pour survivre, enchaîner dans l'atelier. Tu sais bien comme nous voulons une vie toujours meilleure, tailler le monde à nos mesures, aux mesures des travailleurs, car ce serait pas le fond, à flécher ton robinet, à gober que la direction peut avoir de bonnes raisons à revenir lercher, essayer de faire avaler tant qu'on n'a rien qu'on a gagné et qu'il faut cesser de lutter. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste un ouvrier. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste de notre côté. Tu sais bien que les grands bons dans les bureaux syndicaux vivent loin de l'usine, vivent loin de ton boulot. Ils signent la fête sociale, la fête pour le capital et la guerre pour nos bras dans les cadences infernales. Tu sais bien encore beaucoup de choses à comprendre, t'as beaucoup à apprendre, t'as beaucoup à entendre. Tu sais bien, c'est ton rôle, informer, organiser, unir comme les doigts de la main, unir comme les doigts du poing. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste un ouvrier. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste de notre côté. Rappelle-toi la direction, la commune a proposé, comptons sur nos propres forces, sur la force de l'ouvrier. Et rappelle-toi bien de nous, tu nous vois, tu nous connais, nous allons t'attendre ici, on est tous bien décidés, car tu serais pas le premier à te battre, à résister, à mener une lutte juste, plus que dure à gagner, à payer de ta personne pour défendre nos intérêts, et à derrière, tout devant, pour le tout en avant. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste un ouvrier. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste un ouvrier.
Bon, vous avez pu reconnaître le GAM, hein,
qui donc on connaît bien sur Reims, puisqu'il a participé avec nous à la lutte de Chaux, entre autres, à la lutte antinucléaire, et on sait que le GAM a toujours été dans les luttes ouvrières du côté belge, et je crois que d'ailleurs tu as dû, je crois, faire un truc avec eux au niveau des rencontres il y a 3 ans, tu me disais tout à l'heure, au niveau...
Oui, on avait organisé un concours de prise de chansons ouvrières et révolutionnaires.
D'accord.
Où le GAM clôturait effectivement en concert des camarades de Charleroi.
Alors, donc ces collectifs contre l'austérité, d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce qui s'y passe là-dedans?
Donc, il y a 2 collectifs qui sont apparus, hein. D'abord, oui. Donc je vais le dire en français parce que je ne sais pas d'où en irlandais, Le Cœur, pas la rigueur en Flandre, qui est un collectif qui reprend des artistes intellectuels, membres du réseau associatif en Flandre, pour contester justement les politiques, mais là au niveau du gouvernement fédéral, au niveau du gouvernement régional flamand, toutes les mesures austéritaires d'attaque contre la culture et l'enseignement. Alors, suite justement à la création du gouvernement fédéral et aux attaques austéritaires, le mouvement s'est élargi et il y a maintenant le pendant francophone, on va dire, qui s'appelle Tout Autre Chose, qui reprend lui aussi des artistes intellectuels, universitaires, associations, citoyens. Alors, moi je pense que clairement aujourd'hui c'est quelque chose de positif, parce que ça montre justement que la lutte contre les politiques austéritaires ne concerne pas uniquement ce qu'on détermine comme étant la classe des travailleurs d'un point de vue syndical. Ça concerne l'ensemble des citoyens et ça concerne aussi pas uniquement les conditions de travail et de salaire, mais aussi les conditions d'accès à la culture, d'accès à l'enseignement, et donc tout ce qu'il faut aussi, le bien-être collectif et le bien-être de la vie. J'en parlais tantôt sur le temps de loisirs et d'activités sociales. Ça, c'est un élément qui est assez important et qui est en train de ressortir aussi dans les prises de position de plus en plus de gens au niveau de la Belgique.
Et oui, et puis ce qu'on a aussi l'impression, c'est que ces collectifs contre l'austérité, ils entretiennent le débat et la discussion entre les moments de mobilisation des travailleurs et des centrales syndicales, et que justement, ils portent des analyses et ils portent des propositions, ils apparaissent comme un complément, quoi, on va dire.
Oui, un complément qui en plus amène aussi des positions alternatives. Et ça qui est intéressant, je trouve aussi justement, c'est les syndicats ont parfois tendance à rester un peu concentrés sur leur vision qui touche autour du rapport salarial entre patronat et travailleurs, mais il y a plein d'alternatives qui ne se limitent pas uniquement à des augmentations de salaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut amener aussi vers les travailleurs la rediscussion, pas uniquement sur la condition salariale, mais sur la société qu'on veut de manière collective. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez, d'assez intéressant.
Ah oui, c'est même fondamental, puisque c'est pas une division du travail, on va dire, qui est faite entre d'un côté une lutte économique et de l'autre côté une lutte politique, mais c'est quelque chose effectivement qui est complémentaire et qui démontre que y a d'autres solutions possibles. Mais je crois que effectivement, ouais. tu l'as dit au départ, hein, au un moment dans l'entretien, le fait que pendant 500 jours, pendant un an et demi, les politiciens incapables de se mettre d'accord sur leurs petits intérêts personnels et de parti ont été absents de la scène, fait que les gens savent très bien qu'ils n'ont pas besoin d'eux, quoi, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que le pays a tourné parce que, à la fois les bourgmestres et les gouvernements fédéraux, mais aussi les fonctionnaires, ont été capables, je dirais, de s'autonomiser, en tous les cas, de faire marcher le pays, quoi.
Je suis d'accord en partie, ils sont capables de faire tourner le pays, mais le gouvernement précédent restait quand même en affaire courante. Donc, il ne faut pas avoir l'illusion qu'il n'y avait plus du tout de pouvoir fédéral au niveau de la Belgique pendant 500 jours. Il restait un pouvoir fédéral pour les affaires courantes. Le problème dans ces crises politiques, c'est que le gouvernement étant en affaire courante, au niveau des revendications politiques et le fait, par exemple, de faire des reculs sur des lois antisociales, est totalement possible. Mmh. Donc, d'un côté, oui, ça montre l'exemple positif de se dire que voilà, le gouvernement n'est pas véritablement indispensable. De l'autre côté, il y a un gel. Alors là, ça renvoie à une autre discussion qui est qu'effectivement, la lutte d'un rapport de force par rapport aux partis politiques au gouvernement est essentielle. Mais ce qu'il faut maintenant au niveau des organisations syndicales, c'est revenir sur des innovations, ou en tout cas revenir à des traditions du mouvement ouvrier en termes d'alternatives locales. Alors, on avait une grande puissance au niveau des coopératives, on avait des maisons du peuple, on avait des organisations collectives dans les quartiers, Et donc je pense que c'est important aussi, en tant que militants syndicaux, de ne pas simplement être dans la posture politique et dans la lutte par rapport au pouvoir politique, mais aussi sur le terrain de remettre en place ce genre d'alternative, en fait. Parce que la posture politique qui est très bien et très importante, mais c'est important aussi de montrer à toute une partie de la population et à certains aussi travailleurs avec ou sans emploi syndiqués qui ne sont pas forcément toujours totalement politisés dans le bon sens du terme, pas dans le sens des partis, mais que c'est possible aussi ensemble de s'auto-organiser et mettre en place des alternatives nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est un élément qu'il faut aussi, au niveau des militants syndicaux, remettre en avant au niveau de la structure syndicale.
Oui, c'est ça, dès à présent, de proposer de monter des solidarités pour éventuellement aboutir, si ce n'est à une contre-société, en tous les cas, alimenter toujours cette culture de solidarité, cette culture ouvrière, à la base, qui est là, en disant, bon, ben, vous voyez, effectivement, non seulement il y a des solutions qui sont possibles, mais on peut très bien s'en sortir entre nous, quoi.
Alors, d'après la formation que j'ai eue, les deux mouvements dont on parlait tout à l'heure, ils prépareraient une parade nationale le 29 mars à Bruxelles. Est-ce que tu as d'autres informations que ça ?
Non, j'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Nous, à vrai dire, ce qu'on attend impatiemment pour l'instant, ça va être la prise de position des instances fédérales, des organisations syndicales.
Ouais.
Alors, c'est clair que nous, on soutient toutes les initiatives et qu'on est présent aussi dans d'autres actions qui n'émanent pas directement des organisations syndicales. Mais ce qui va être déterminant ici, c'est la position que va prendre l'organisation syndicale au sein de GTD et CSN.
Oui, d'accord. Et est-ce que, justement, la situation au niveau sécuritaire, puisqu'on n'entend parler que de ça en France par rapport à la Belgique ces derniers jours, est-ce que ça risque pas d'avoir une influence terrible sur le mouvement social en Belgique ?
La première influence qu'elle a déjà, c'est qu'elle met de côté tout le débat politique sur la situation sociale et économique en Belgique. Donc il y a eu ici des affrontements entre police et des présumés membres d'une organisation djihadiste à Verviers, notamment deux présumés terroristes qui ont été abattus par les groupes d'intervention spéciaux de la police. Donc effectivement, ça occupe toutes les places dans la presse. Le gouvernement fédéral ici vient de sortir une batterie de mesures, dont 12 mesures, pour durcir la lutte contre le terrorisme. Alors maintenant, clairement, il ne faut pas se tromper, c'est généralement quand l'État parle de durcir la lutte contre le terrorisme, il en profite pour incorporer dans son arsenal législatif des mesures qui permettent aussi d'attaquer directement les mouvements et contestations sociales.
Oui.
Alors, il n'aura pas fallu attendre qu'il y ait cette... Donc l'événement avec Charlie Hebdo et ce qui s'est passé ici en Belgique dernièrement, pour avoir de toute façon déjà un arsenal répressif. Donc il y a notamment, je pense, 7 ou 8 ans, il y avait une manifestation nationale qui s'organisait à Liège contre la tenue du sommet européen à Ecofin.
Oui.
Des militants avaient été écoutés pendant de longs mois par la police. Ça avait débouché sur des interpellations et un procès au tribunal pour association de malfaiteurs et contestation de l'État. Alors, ils ont été acquittés, mais quand ils ont eu accès au dossier à leur charge au niveau du tribunal, tous les SMS, les entretiens téléphoniques qu'ils avaient étaient tous écoutés et retranscrits.
D'accord.
Si on remonte un peu plus loin, il y a 12 ans ou 15 ans, donc on a eu des grands livres des forges de Clabecq avec une grande manif qui a mobilisé 80 000 personnes. Les délégués principaux de Clabecq, qui était une usine sidérurgique, avaient été inculpés au tribunal de Nivelles sur base d'une loi qui en fait avait été votée sous suffrage censitaire, donc c'est-à-dire qu'on n'était pas encore au suffrage universel. C'était l'époque où uniquement la bourgeoisie, le patronat et les notables pouvaient voter. Et donc on était utilisé un arsenal législatif qui n'avait pas été supprimé de la loi belge pour attaquer des délégués pour incitation à la révolte et à l'émeute, en fait.
Oui, effectivement, oui, c'est certain.
Interpellant avant, c'est qu'il n'y a pas de condamnation, il y a eu ce qu'on appelle la suspension du prononcé. Une suspension du prononcé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas condamné à une peine de prison ou une peine judiciaire, mais vous êtes reconnu comme étant coupable.
Oui. Mais je crois qu'effectivement, il y a ces vieilles traditions de l'État, peut-être pas fort, mais en tous les cas très très restrictif en Belgique. Et on en parlait donc à Bruxelles. Il y avait cette envie quand même de faire du 29 mars une espèce de d'apogée. Hein, et on parlait justement d'éventuellement manifester dans la zone franche. Pour les auditeurs, il y a une partie de Bruxelles qui est considérée peut-être pas comme zone internationale, faut pas exagérer, mais en tous les cas, comme zone, on ne va pas manifester. C'est la
donc
zone où il y a le Parlement.
On appelle la zone neutre, il est interdit de manifester dans la zone neutre. Ça reprend le Parlement fédéral, le Palais Royal, toute une série d'autres institutions politiques. Mais c'est clair que même au niveau des organisations syndicales, il y a des propositions qui courent de faire des grandes marches jusque Bruxelles, comme ça s'était fait dans au moment des grèves de 60-61.
Ouais.
Pour aller jusque Bruxelles et encercler et bloquer totalement la zone neutre, pour simplement rappeler aussi au patronat et à la classe politique qui participe, que ce soit de la gauche social-démocrate ou de la droite libérale et capitaliste, mais que ceux qui ont le pouvoir en Belgique, ceux qui produisent, qui font vivre le pays, qui font vivre la collectivité, c'est les travailleurs avec ou sans emploi, c'est les artistes, c'est les intellectuels, c'est toute la population, et pas uniquement une minorité qui possède les mains de production et les moyens de décision politique.
Ah, ça fait vraiment plaisir de t'entendre dire des choses comme ça. On aimerait bien que nos syndicalistes parlent de la même manière. Alors bon, comment tu vois la suite, toi, pour essayer de conclure notre entretien, alors ?
Alors, la suite qui va se passer, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit qu'en fait, l'FGTB notamment est une fédération. Donc, c'est les fédérations composées de centrales professionnelles. On peut résumer en disant que chaque centrale est un syndicat en lui-même qui a son autonomie politique et son autonomie d'action. Alors, la CGC, par exemple, qui est le syndicat des services, enfin le syndicat FGTB de services publics, lui a très clairement dit qu'il allait continuer les actions. Il y a aussi l'autonomie des régionales. Donc je pense qu'il y a des régionales qui vont continuer à mettre en place le rapport de force. Donc moi, je serais surpris qu'on fasse aussi rapidement machine arrière, ou en tout cas qu'on accepte une paix sociale temporaire avec de très 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 légères avancées par rapport aux armes de destruction massive antisociale qui sont dans l'accord du gouvernement. Maintenant, ce qui est important, c'est que tous les militants sur le terrain continuent au sein de l'organisation à relayer les positions politiques et les revendications, à continuer à alimenter le débat pour que justement la base soit directement à la base des décisions par rapport à la suite des actions. Nous, par exemple, à la fin février, on organise un meeting au niveau GDFGTB sur combat d'austérité pour remettre en avant justement les positions des jeunes, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une série de mesures qui attaquent les jeunes, notamment en matière de flexibilisation du travail étudiant. Donc les travailleurs étudiants maintenant travaillent moins à l'heure. Donc c'est mis en concurrence avec les travailleurs qui sont sous contrat de travail classique. Les étudiants ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Donc c'est clair que le patron préférera prendre des étudiants qui va faire travailler 2 heures par-ci, 3 heures par-là, sans cotiser dans la collectivité. Et donc nous, ce qu'on veut aussi, c'est remettre en avant les attaques faites aux jeunes et renforcer la défense des jeunes au sein de l'organisation syndicale et fédérer le plus de gens possible sur Charleroi pour continuer d'alimenter la réflexion sur la manière de lutter de manière efficace contre les politiques austéritaires.
Eh bien, écoute, je pense qu'on se donnera rendez-vous. J'espère qu'on pourra venir à ce meeting fin février, et puis peut-être qu'on se verra avant ou après dans
sur l'île du Nord.
Oui, tout à fait. On va essayer un petit peu d'organiser la solidarité, en tous les cas, pour ce quart nord-est, parce que ce que vous défendez, la manière dont vous le défendez et ce par quoi vous êtes touché, ça concerne bien sûr tous les travailleurs de Belgique, mais ça concerne aussi tous les travailleurs d'Europe qui peut-être pourraient s'inspirer de votre combat pour dire et espérer qu'il n'y a pas du tout de fatalité, quoi.
Oui, parce que ça, c'est une réflexion qu'il faudra avoir aussi. C'est le retour des luttes internationalistes au niveau des organisations syndicales. Combat d'austérité uniquement au niveau de la Belgique, sans prendre de position d'action commune et solidarité avec les autres camarades des organisations syndicales et de lutte européennes n'aurait pas de sens, parce que de plus en plus de décisions qui sont prises, près de 80%, sont de toute façon prises au niveau de l'Europe. Et donc ça, je pense que c'est une réflexion aussi qu'il faudra avoir sur la dimension internationaliste de la lutte.
Ok, très bien.
Ok, bah, écoute, on te remercie.
Ne quitte pas.
Ne quitte pas, parce qu'on va te reprendre en antenne, entre autres pour te communiquer eh bien, l'interview qu'on a fait avec toi sur notre pour que tu l'aies, quoi, tout simplement.
Ok, merci.
On te remercie bien.
Merci.
On a si souvent parlé, pour oublier, pour tout changer. Dépêche-toi, c'est la céleri, on en reparlera à la sortie. Tous différents, nous sommes tous les mêmes, on commence la semaine en disant vivement vendredi. Plus que 8 heures et nous serons sortis. 20 fois, 100 fois à regarder ces aiguilles qui ne veulent pas tourner, qu'il est loin notre répit.
depuis que c'est tard et nous aurons sorti. Et quand nous rions en mangeant nos tartines, fumant cachés par nos machines, les esprits s'évadent dans le bruit. Plus que 6 heures et nous serons sortis. Et les petits chefs et leurs injures en ont-ils fait des blessures? Dans nos colères ils ont inscrit plus que 5 heures et nous serons sortis. Et à midi la sonnerie nous libère le temps de quelques verres de bière. Que les dés roulent sur notre ennui. Plus que 4 heures et nous serons sortis. Et quand sur nous arrivent les urgences, alibi doré pour les canons. Que le rage en nos poings asservis. Plus que 3 heures et nous serons sortis. Non, ne me dis pas. Il n'y a rien à faire contre ces heures qui nous enterrent. Il n'y aura pas toujours ces aiguilles dans nos vies. Plus que 2 heures et nous serons sortis. Tu penses aux copains, à ceux qui ne disent rien. Tu crois que la peur les retient. Ils seront avec nous, mon ami. Plus qu'une heure. Et ces minutes de course folle, baignées d'essence et de pétrole, tout nettoyé avant qu'elle retentisse. Plus que 5 minutes et nous serons sortis. Tu viens prendre un verre, nous pourrons parler, pour oublier, pour tout changer. Dépêche-toi, c'est la sonnerie. Plus que 4 jours et c'est vendredi.
Oui, alors je crois que à cette radio, on vous a parlé longuement plusieurs fois de la grève de la dans la poste dans le 92 avec une grève très longue qui avait duré plus de 170 jours et je vous avais déjà d'ailleurs dit qu'il y a de la répression qui se préparait. Eh bien la répression est tombée puisque le secrétaire départemental adjoint de Sud PTT des Hauts-de-Seine du 92 donc vient de recevoir sa notification de révocation pour des faits liés à l'activité syndicale et au conflit dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est déroulé au premier semestre 2014. Alors, ce n'est pas le seul, puisqu'il y en a d'autres qui risquent la même chose. Donc, il faut rappeler quand même qu'au niveau de la Poste, cela n'avait pas eu lieu depuis 1951, ou pendant la guerre d'Algérie, selon les souvenirs. Et voilà, et pourtant, eh bien, Yann, c'est son prénom, postier des Hauts-de-Seine, s'est fait révoquer pour des prises de parole, simplement, et des interventions syndicales. Alors, je crois que demain, d'ailleurs, il y a un rassemblement qui a lieu, donc, contre la répression à la Poste et pour le soutien, justement, de Yann et aussi des autres qui vont passer. Ça se passe devant la direction opérationnelle du territoire du 92, 3 boulevard du Levant à Nanterre. Bon, ça concerne ceux qui sont en région parisienne, mais non. Et puis, par contre, il y a une pétition en ligne qui est signable par tous, donc ça serait peut-être bien, même si on peut toujours dire que ça ne sert pas à grand-chose. N'empêche qu'à mon avis, si on est des milliers à signer, cela peut peut-être avoir une influence.
Alors Yann, effectivement, c'est la personne qu'on avait eu au téléphone qui nous avait parlé de ce mouvement de grève de la Poste dans le 92, et quand même à noter que il faut absolument sortir cette répression du contexte, on va dire, parisien
et du 92,
et 92 et de l'Île-de-France pour bien mettre le nez dans la merde à la Poste, parce que effectivement des révocations de fonctionnaires, c'est quand même des choses qui sont très particulièrement
pour faire une grève.
Bon, ils vont évidemment trouver des trucs peut-être un peu plus crado, certainement, pour alimenter le dossier, mais toujours est-il que voilà, la révocation elle est là, et donc il faut absolument que ça explose au grand jour pour que le rapport coût-bénéfice de la Poste, à savoir se débarrasser d'un militant actif et au niveau de l'image et au niveau de ses emmerdements, qu'ils comprennent bien que si ils continuent cette répression-là et qu'ils reviennent pas sur leurs décisions, et ben ça va leur coûter cher.
Petite remarque tout de même, ouais. Les dirigeants de la Poste ont demandé à tous les postiers et postières de respecter une minute de silence pour la défense de la liberté d'expression, comme tout le monde, et puis en proclamant tout fort qu'ils étaient Charlie.
Oui,
voilà, et en parallèle, eh bien justement, la liberté d'expression a été bafouée dans leur propre boutique, puisqu'il y a eu déjà une personne qui était révoquée.
Alors, liberté d'expression, effectivement, visiblement, elle est assez délimitée, on ne peut pas tout dire, puisque on va encore parler de répression, malheureusement, c'est les bonnes nouvelles, c'était tout à l'heure. Il fallait écouter les Grégor au début, parce qu'à la fin, c'est moins bien. Jeannot, tu nous parles de ce fait-là en Italie hein.
Dès que je suis branché, merci. Voilà. Dès que je suis branché, je vais vous parler moi de Eri De Luca. Je pense que vous avez entendu parler d'Eri De Luca. C'est un immense écrivain italien qui a fait partie de la lutte, des luttes importantes des années 70, 60, 70, 80 en Italie, au sein d'un mouvement immense, le mouvement Lutta Continua. Il a à son actif une bonne vingtaine d'œuvres, donc j'en citerai quelques-uns, Quichotte et les Invincibles, ouais. Le jour avant le bonheur, Le poids du papillon, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais me dépêcher. Ouais, ouais. Et là, il vient de sortir un petit ouvrage, une quarantaine de pages, qui intitulé « La parole contraire » aux éditions Gallimard, dans lequel il explique pourquoi il a déclaré le droit au sabotage pour les gens qui luttent dans le Val de Susa depuis une vingtaine d'années. On sait que c'est un des chantiers les plus militarisés d'Europe, un chantier qui est engagé par la société LTF, donc Lyon-Turin ferroviaire, un de ces chantiers qu'on a qualifié de nombreuses fois à cette antenne de inutile et criminel. Criminel parce que notamment ce chantier, il envoie des ouvriers à l'intérieur pour percer un tunnel dans l'amiante, dans des gisements d'amiante et dans des gisements d'uranium. Ayant un coût absolument faramineux, puisque au fil des années, on s'aperçoit que ce qui est prévu, c'est quelque chose comme 50 milliards pour emmener un train, un espèce de TGV de Lyon à Turin et plus bas en Italie, et pour lequel des centaines de milliers de personnes se sont déjà mobilisées au cours de ces 20 dernières années. Alors Eri De Luca a écrit, je vous lis rapidement la postface, hein. Je revendique le droit d'utiliser le verbe saboter, selon le bon vouloir de la langue italienne, son emploi ne se réduit pas au sens de la dégradation matérielle, comme le prétendent les procureurs de cette affaire. Par exemple, une grève, en particulier de type sauvage, sans préavis, sabote la production d'un établissement ou d'un service. Un soldat qui exécute mal son ordre le sabote. Un obstructionnisme parlementaire contre un projet de loi le sabote. Les négligences, volontaires ou non, sabotent. Voilà. L'accusation portée contre moi sabote mon droit constitutionnel de parole contraire. Le verbe saboter a une très large application dans le sens figuré et coïncide avec le sens d'entraver. Les procureurs exigent que le verbe saboter est un seul sens, au nom de la langue italienne et de la raison, je refuse la limitation du sens. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler plus longuement à la fois de l'œuvre d'Eri De Luca, mais aussi de son engagement aux côtés des notaves. Il passera en procès donc au tribunal de Turin le 28 janvier prochain.
Ah, puis vive voilà. Le sabotage quand même.
Comment ?
Vive le sabotage.
Vive le sabotage, pas de problème.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, sur les Côtes Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, des radios primitives sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OC Libertaire et sur le blog Le Chat Noir 51.